Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette 46e émission de Complètement à l'Ouest. Et commençons tout de suite en nous remémorant cette tirade fameuse de l'école des femmes de ce cher Molière. Nous sommes en 1662 et Molière parlait d'argent en ces termes. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. En effet, il fait tourner les têtes, suscite les convoitises, dévoile la cupidité ou au contraire est capable de rendre la vie un peu meilleure, généreuse. Non, il ne s'agit pas de drogue dure, quoique, mais bien d'argent, de monnaie dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'elle soit scripturale ou numérique, qu'elle soit fiduciaire ou de banque centrale, la monnaie est au cœur du lien social et de la souveraineté des États. Élément de confiance des citoyens envers leurs institutions, élément géopolitique de première grandeur, il n'y a qu'à penser à la suprématie du dollar, même si nous n'avons pas à rougir de notre monnaie, l'euro. La monnaie fait partie de nos vies, bien plus, la monnaie est le symbole de l'appartenance à une communauté politique. C'est donc de monnaie, d'actifs monétaires teintés de numérique dont nous allons abondamment parler tout au long de cette émission. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Claudine Urmand et bienvenue au micro de Complètement à l'Ouest.
Bonjour Philippe.
Vous êtes, alors je vais prendre mon souffle, directrice de l'innovation et des infrastructures des marchés financiers à la Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations de la Banque de France. Voilà, c'est dit. Il faudra bien sûr nous dire en quoi consiste cette Direction de la Stabilité Financière et des Opérations. En tout cas, je retiens que vous êtes une incontestable et incontestée professionnelle de la chose financière. Et à ce titre, nous allons sans plus attendre plonger dans notre sujet de ce jour, la monnaie, les crypto-actifs avec ce court extrait sonore. Et là, il va s'agir d'évoquer un fait d'actualité avec la condamnation à 25 années de prison de Sam Bankman-Fried, roi déchu des crypto-actifs aux États-Unis, dont la faillite avait ébranlé tout l'univers des crypto-monnaies. Même si ce court extrait est en anglais, on écoute.
Hello, welcome inside the CBC Newsroom. I'm Abby Kuwadasan. We begin this breaking news, this hour with breaking news out of New York. Former crypto mogul Sam Bankman-Fried has been sentenced to 25 years in prison. He was convicted of fraud and money laundering last year after stealing billions from cryptocurrency customers. The CBC's Richard Madden is following the story for us. Richard, what's unfolded so far and what can we expect?
Well, he's been sentenced, and it was significant. Prosecutors were pushing for 50 years behind bars, and this sentence is half of that, 25 years. It's still far, far more than the 6 years Bankman-Fried's lawyers were hoping for. So a 25-year sentence means, barring an early parole, Sam Bankman-Fried will be out of prison at the age of 57. Now, this sentence follows after the jury found him guilty to one of the largest white-collar crimes in history, which ranges from wire fraud to money laundering in an elaborate scheme to deliberately steal up to $14 billion.
Alors, en substance, pardon pour ce reportage en anglais, mais il s'agit évidemment du compte-rendu d'audience évoquant le fait que Sam Bankman-Fried, le cofondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX, vient donc décopé de 25 années de prison, coupable, reconnu coupable d'avoir orchestré l'une des plus grosses fraudes financières de l'histoire américaine, laissant derrière lui une ardoise de 8 milliards de dollars et des milliers d'investisseurs démunis. Une toute première question, puisque nous allons donc plonger et parler de crypto-monnaie, non, plutôt de crypto-actifs, il faudra bien sûr nous dire la différence, mais peut-être revenir, Claudine Urmand, sur votre titre, le rôle de la direction de l'innovation et des infrastructures des marchés financiers. Et puis cette autre question que je veux à tout prix vous poser d'entrée de jeu pour marquer le décor, c'est quoi une monnaie? À quoi sert une monnaie?
Excellente question, je vais tâcher d'y répondre. Alors, concernant donc notre rôle donc à la direction de l'innovation et des infrastructures des marchés financiers donc à la Banque de France, nous sommes en charge du bon fonctionnement des systèmes de paiement et des infrastructures de marché. C'est vraiment ce qui participe à donner confiance aux citoyens dans la monnaie. Et d'ailleurs, notre rôle est inscrit pour information dans le code monétaire et financier. Donc c'est notre mission principale. Nous sommes également opérateurs d'infrastructures de marché. Par exemple, voilà, l'infrastructure donc Target qui traite des paiements de gros montants. Nous surveillons les infrastructures et nous sommes également en charge de tout ce qui est cyber-résilience de ces infrastructures. Donc plusieurs missions et enfin bien sûr l'innovation, nous regardons de très près les crypto-actifs et nous sommes très engagés dans la monnaie numérique de banque centrale de gros sur les marchés financiers.
Alors vous avez parlé de crypto-actifs, vous avez parlé de monnaie, question toute simple et je répète, c'est quoi une monnaie ?
Alors une monnaie, on peut essayer de la définir pour être le plus concret possible en décrivant les fonctions qu'elle remplit, sinon ça peut être extrêmement abstrait.
Soyons
alors une
concrets.
Monnaie, voilà, pour s'appeler en tant que telle, doit remplir trois fonctions. Tout d'abord, elle doit être une unité de compte, ce qu'elle doit permettre de déterminer la valeur ou le prix d'un objet en étant quelque part un actif de référence. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est qu'une monnaie doit pouvoir servir d'instrument d'échange pour tous les échanges. Donc elle doit être communément acceptée. Et enfin, la troisième fonction que doit remplir une monnaie, c'est de pouvoir être une réserve de valeur. C'est-à-dire, on doit pouvoir accepter de ne pas dépenser cet actif aujourd'hui avec l'espoir de pouvoir l'utiliser plus tard et qu'elle conserve effectivement cette valeur. Donc c'est voilà, très concrètement ces trois fonctions qu'elle doit remplir.
Alors je fais très attention en prononçant le mot de non pas de crypto-monnaie mais de crypto-actif parce que vous préférez, je crois, à la Banque de France parler de crypto-actif. Y a-t-il une différence ? Est-ce que c'est un mauvais terme que de parler de crypto-monnaie qu'on lit régulièrement dans la presse ?
Alors effectivement, donc nous ne parlons pas de crypto-monnaie puisque nous considérons que les crypto-actifs, et c'est en fait voilà les observations que l'on peut faire, ne remplissent pas ces fameuses trois fonctions, unité de compte, instrument d'échange, également réserve de valeur, puisqu'ils connaissent une volatilité de leur valeur extrêmement importante. C'est pour ça, voilà, on préfère vraiment le terme de crypto-actif qui semble réellement refléter la réalité pour ne pas voilà, tromper les citoyens.
On a vu notamment la tentative de création de nouveaux crypto-actifs, notamment par les GAFA, mais je pense notamment bien sûr à Facebook, qui a un temps à parler de Libra, qui est devenu par la suite le Diem. La question de fond que je me pose, c'est qu'est-ce qui intéressait finalement, singulièrement Facebook, mais potentiellement d'autres acteurs du numérique, de créer cette unité d'échange ?
Alors vraiment, ça procédait quelque part, voilà, d'ailleurs comme le Bitcoin, une idée un peu libertarienne de s'affranchir quelque part de tout ce qui est institutionnel, des infrastructures, des banques centrales, et d'avoir un véritable instrument d'échange privé entre citoyens pour pouvoir échanger des biens, acheter des biens, acheter des services de manière très large. Sauf que finalement, cette idée un peu libertarienne a été appropriée par ces GAFAM pour finalement devenir un projet, on va dire, commercial d'envergure. Et cette initiative, notamment, potentiellement, pouvait toucher 2 milliards d'individus au niveau de donc Facebook, Meta, avec le fameux Libra ou Diem, grâce à un très large, ce qu'on appelle effet de réseau, qui permet de toucher un très grand nombre de clients de ces plateformes. Donc il y avait effectivement une grande possibilité, on va dire, commerciale, énorme de pouvoir se développer sur ce type de service.
Et pourquoi ils ne sont pas allés, à ma connaissance et à date, jusqu'au bout de cette démarche ?
Alors, les régulateurs, les autorités se sont finalement bien rendus compte du potentiel impact en termes de stabilité financière. C'était finalement créer un genre de monnaie complètement privée, quelque part en circuit fermé, complètement affranchi des autorités et qui pouvait vivre sa vie sans aucune régulation ou réglementation. Donc effectivement, une éviction des monnaies qui sont émises par les banques centrales avec l'impossibilité de pouvoir agir en cas de crise en la matière. Donc ça pouvait devenir vraiment systémique, d'où le holà qui a été mis par les autorités en la matière.
Et vous pensez que ça va revenir?
Ça peut revenir. On a des initiatives, de nouvelles initiatives qui sont arrivées récemment. Je pense notamment à PayPal, qui est arrivé donc avec son stablecoin. Donc potentiellement, oui. Et c'est pour cela que tout un cadre réglementaire doit se mettre en place pour bien réguler et encadrer ces nouveaux actifs.
Alors vous citiez tout à l'heure le Bitcoin et donc le Bitcoin parmi les crypto-actifs. Il y en a d'autres. La question que je me pose, c'est d'abord peut-être nous rappeler brièvement en effet ce qu'est un Bitcoin, vous l'avez esquissé tout à l'heure, et sur quoi se fonde la valeur de ces crypto-actifs. Est-ce que c'est juste finalement l'offre et la demande, mais plus en profondeur, ma question c'est quel est le sous-jacent économique et financier derrière ces crypto-actifs?
Alors, très bonne question. Donc, peut-être pour distinguer les types de crypto-actifs, peut-être dire qu'il y a des crypto-actifs comme par exemple le Bitcoin qui en fait ne reposent, on peut dire, économiquement sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-jacent, il n'y a pas d'actifs qui viennent garantir ce crypto-actif. Donc en fait, il est fondé sur une chaîne de blocs et sa valorisation est complètement dépendante d'autres, on va dire, d'autres facteurs. Et il y a énormément de facteurs liés aux rumeurs, par exemple, à la volonté de spéculer. Donc il n'y a pas de valeur économique qui soit attachée à ces actifs. On peut les distinguer avec d'autres actifs qui sont ce qu'on appelle les stable coins, qui eux sont adossés à des réserves, à un panier d'actifs. Donc peut-être faire une distinction entre les deux.
Donc d'un côté, en effet, des crypto-actifs avec des sous-jacents réels et d'autres un peu moins réels quelque part.
Tout à fait. Donc effectivement.
Bon. Alors on va marquer une petite pause musicale dans cette émission et évidemment cela ne vous étonnera pas. Nous allons parler aussi d'argent pendant cette pause musicale puisque d'argent pour rien, d'argent gratuit. C'est un titre, vous l'avez peut-être reconnu, Money for Nothing de Dire Straits qui est sorti en 1985. À l'ère des taux d'intérêt plus élevés, en tout cas on a connu des taux d'intérêt très bas, l'argent en effet était gratuit, money for nothing, on écoute.
Con complètement à l'ouest. L'invité.
Allez, de retour avec Claudine Urmand, qui est directrice de l'innovation et des infrastructures des marchés financiers à la Direction générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France. Et nous parlons monnaie, crypto-actifs, bref, nous parlons d'argent. Claudine Urmand, un Français sur 10 détient des crypto-actifs. Comment vous analysez ce chiffre et finalement, que recherchent ces Français qui ont ces portefeuilles de crypto-actifs? Est-ce que c'est seulement un bon rendement financier ou est-ce que c'est autre chose aussi?
Alors c'est vrai qu'on a vu un certain regain de l'engouement pour les crypto-actifs qui peut-être est venu également du fait que voilà il y avait des variations au niveau des taux, donc effectivement ce qui est recherché c'est bien le rendement, tout à fait, mais bon, le rendement il peut être à la hausse et aussi à la baisse, hein. Juste pour rappel, par exemple je crois que c'était en 2021 lors du mois de mai, il y a dû y avoir un gros crack au niveau du Bitcoin, je crois qu'il a perdu sa valeur, ou 40% de sa valeur en quelques jours, donc effectivement c'est vraiment de la recherche du gain, de la spéculation. Ils sont vraiment des instruments spéculatifs. Et effectivement, c'est intéressant quand on regarde le profil des personnes qui achètent ce genre de crypto-actifs. En général, ce sont plutôt des hommes et plutôt des personnes assez jeunes. Donc on trouve toute tranche de population, mais il y a une petite concentration quand même sur ce type de profil.
Pour autant, il ne faut pas seulement être geek pour se passionner pour le Bitcoin. Tout le monde peut se passionner pour le Bitcoin, notamment.
C'est vrai, c'est vrai. Il faut bien en connaître les risques. Donc c'est important d'être bien informé en la matière.
On a récemment justement vu le cours du Bitcoin, vous le citiez, s'envoler. Alors en effet, il fait régulièrement le yo-yo, très bas parfois et très haut, notamment actuellement. Le cours du Bitcoin était dopé par un certain nombre d'éléments, je ne veux pas rentrer dans la technique, notamment des fonds indiciels américains, plus en effet les taux d'intérêt qui précédemment étaient bas, donc il fallait chercher du rendement. Comment sur ce marché des crypto-actifs finalement séparer le bon grain de livret, distinguer finalement, j'allais dire, le leurre et l'argent du leurre? Je suis un peu sévère peut-être.
Alors c'est très délicat, il faut être vraiment très prudent en la matière et bien examiner en fait la nature économique de ces cryptoactifs et voir surtout si derrière voilà il y a une réserve, hein. Je parlais tout à l'heure des stablecoins, peut-être ce sont les moins pires des cryptoactifs. La problématique c'est aussi de savoir de quoi est composée cette réserve, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans une banque, dans quelle banque, est-ce qu'il y a des titres derrière, combien valent-ils, puisque le problème c'est vraiment le manque de transparence en général, l'information n'est pas actualisée, elle n'est pas toujours fiable. Donc pour l'instant, toute cette réglementation est en cours de mise en place et vraiment, enfin, je pense qu'il faut inciter vraiment la prudence pour ne pas se précipiter sur l'achat de crypto-actifs parce que clairement, il y a des risques attachés. On l'a vu au travers l'effondrement par exemple de Terra Luna, la faillite de la plateforme FTX.
Bien sûr, qu'on a cité
donc
tout
de gros
à l'heure,
risques. Voir, il y a eu également des pertes, des vols de crypto-actifs avec des vols de wallets, de clés. Donc vraiment une grande prudence en la matière. Donc je crois qu'on n'est jamais trop prudent et il faudra, alors on aura un règlement européen qui rentre en vigueur, mais ça n'est pas le cas dans le monde entier. Il faut vraiment être très attentif à la bonne information et à ce qui se cache derrière.
À quelle date ce règlement européen là, sur les crypto-actifs?
Alors le règlement MiCA en fait va entrer en vigueur dès le mois de juin, donc il va se déployer donc jusqu'à la fin de l'année 2024.
Donc nous y sommes là.
On va y être, voilà, tout à fait.
Les banques françaises, assez récemment, si on parle maintenant notamment de l'euro numérique, les banques françaises ont été longtemps vent debout, presque, contre ce projet de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. Qu'est-ce que c'est qu'un euro numérique et qu'est-ce que cet euro numérique, si d'aventure il venait à sortir, nous apportera, nous, citoyens européens? Est-ce que finalement il va se substituer à nos pièces et billets qu'on trouve dans nos porte-monnaies?
Alors, effectivement, un euro numérique, donc pour essayer de donner une image, ça peut être un genre de billet numérique, si vous voulez. Donc, quelque chose qui puisse être utilisé dans une économie qu'on dit aujourd'hui très, très numérisée, puisqu'on constate quand même qu'il y a une baisse quand même sensible des espèces, avec cette caractéristique qu'il doit avoir comme le billet actuellement, il doit être gratuit. Il doit être accessible à tous, il doit avoir un cours légal, c'est-à-dire que tous les commerçants doivent l'accepter. Il doit faciliter l'inclusion financière, typiquement. Donc, beaucoup de caractéristiques du billet lui-même. Et en fait, ça serait une nouvelle façon de payer. Mais en aucun cas, ils ne viendraient se substituer aux espèces, donc ils continueront à circuler. C'est vraiment offrir un nouveau moyen aux citoyens pour accompagner la numérisation. Mais bon, je dois dire que pour l'instant, aucune décision n'a été prise en la matière.
Bien sûr.
Est en phase de préparation.
J'imagine.
Et lorsque la décision sera prise, il faudra aussi qu'il y ait un règlement européen qui vienne également donner le cours légal et encadrer tout cela.
Mais concrètement, est-ce que cet euro numérique pourra être embarqué dans nos téléphones ? Avec quel outil allons-nous utiliser cet euro numérique ?
Alors là, oui, c'est en cours d'étude, effectivement, également avec des acteurs du secteur privé pour trouver des solutions pour les utilisateurs qui soient ergonomiques. Oui, ça pourrait être un token, ça pourrait être votre téléphone. Donc tout est possible. L'idée, c'est vraiment aussi qu'il puisse être utilisé par des personnes qui n'ont pas accès facilement à des outils numériques. Il doit être simple d'utilisation et accessible.
Oui, en effet, parce qu'il y a la barrière de l'utilisation des outils numériques que vous citez, vous avez raison.
Absolument.
Voilà, j'en bafouille, j'en oublie ma question. Sur un autre sujet, toujours, on parle de monnaie, évidemment, et quand on regarde l'histoire économique, on voit que par le passé, il y a eu des monnaies locales, notamment des moments historiques de graves crises économiques ou financières. Je pense notamment à l'Argentine en 1995, qui avait lancé une véritable monnaie locale. Il existe aussi en France un tas de monnaies locales, on l'ignore, en tout cas on le sait pas énormément. Je pense à l'ESCO, à l'abeille, à la boussole, la sonnante également, ou la sole violette. À quoi servent ces monnaies locales ? Et puis la question que je me posais d'un point de vue de la Banque de France, est comment voyez-vous de telles initiatives qui quelque part se substituent à la monnaie officielle, légale que vous citiez tout à l'heure ?
Oui, alors effectivement, ces monnaies locales ont vu le jour et leur caractéristique est vraiment d'opérer dans un périmètre restreint, une ville, une région, un département. Et l'objectif, c'est vraiment de remplir plutôt un projet du type associatif, d'inclusion sociale, de développement. Donc c'est vraiment dans un but de développement économique et social et également de trouver une identité à une ville, à un quartier. Elles sont tout à fait légales, ces monnaies.
On peut créer des monnaies locales.
On peut créer des monnaies locales. C'est permis, c'est introduit dans notre code monétaire et financier et elles sont surveillées. Oui. Donc elles doivent être agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc la CPR, et elles sont surveillées par la Banque de France.
Et chaque citoyen peut créer sa monnaie locale à l'échelle de son quartier, de son immeuble, avec les process d'agrément que vous citiez ?
Tant qu'il répond effectivement aux critères, c'est possible, c'est un moyen de paiement légal qui est tout à fait toléré. Mais ça reste une tendance encore relativement modeste. Mais ça montre que le législateur a fait preuve d'innovation aussi.
Et d'innovation,
tout à fait.
Alors justement d'innovation, et ce sera notre dernière question parce que le temps file très vite. Quand on pense innovation, et vous êtes directrice de l'innovation à la Banque de France, quand on pense prospective, c'est quoi la monnaie de l'avenir ? Est-ce que c'est forcément quelque chose qui va être 100% numérique, comme on évoquait tout à l'heure l'euro numérique ? Est-ce que c'est un mix entre ce que nous connaissons ? En clair, sur quelle thématique travaillez-vous en termes d'innovation ? Sans trahir de grands secrets, évidemment.
Oui. Alors, l'avenir de la monnaie, il est certainement, déjà peut-être dire qu'il est dans la complémentarité. Puisque voilà, les espèces ne disparaissent pas, elles sont actuellement très favorisées par les citoyens qui aiment bien garder un petit matelas chez eux. Elles sont moins utilisées par exemple dans les échanges, mais elles sont gardées voilà, par nos citoyens. Donc l'avenir de la monnaie, il sera sûrement multiforme, peut-être encore plus digitalisé. On a la chance voilà, nous, d'avoir un grand panel de moyens de paiement possibles. En tout cas, du point de vue de la Banque de France, ce qui est important pour nous, c'est que les citoyens gardent la confiance dans la monnaie. C'est ça qui va primer. Donc, assurer la sécurité, assurer donc qu'elle soit disponible, qu'elle soit gratuite. Et donc, côté Banque de France, donc nous préparons activement aux nouvelles formes de la monnaie, ben, en travaillant beaucoup avec le secteur privé. Donc, je peux mentionner d'ailleurs, comme nous y sommes, que nous travaillons côté Banque de France pour côté marché financier, non pas sur l'euro numérique qui est voilà, l'euro de la monnaie de détail, mais on regarde aussi ce qui va se passer sur les marchés financiers pour là encore éviter qu'on ait une comment dire, des monnaies privées qui viennent se substituer à la monnaie de banque centrale. Donc on regarde pour une monnaie de gros qui soit numérique et qui soit émise via des blockchains. Donc,
et ça, à quelle échéance?
Alors, pour l'instant, c'est très expérimental, mais il faut savoir que, voilà, on a réussi à convaincre l'Eurosystème en la matière qu'il fallait engager des travaux exploratoires. Et il y a un grand programme qui est lancé en 2024 et que nous venons tout juste d'entamer.
C'est très technique, hein. Vous avez cité la blockchain notamment, on n'a plus le temps malheureusement d'évoquer ce sujet, mais on voit bien à travers les innovations que ça passe beaucoup par le numérique, beaucoup par les nouvelles formes de transactions que vous citiez.
Tout à fait, et on va explorer tout ça avec les acteurs de marché, donc c'est en faisant qu'on apprend, donc on va s'engager dans cette nouvelle aventure.
Un grand merci Claudine Nurmont d'avoir accepté cette invitation pour parler monnaie, pour parler crypto. Actif et non pas crypto-monnaie. Et comme toujours, un petit mot particulier pour nos amis en régie que j'aperçois, que je vois et qui rendent possible cette émission, qui la préparent avec moi. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Mais d'ici là, on connaît la formule et je la répète à souhait. On garde le cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. À bientôt. Merci.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.